Italiens, ce sont des Russes. Mais précisément un niveau de, d'analyse où j'essaye de me situer, on pourrait faire la comparaison, bien sûr, avec, et ces Russes venant en France disent comme c'est compliqué en France. Bon, tout à l'heure, peut-être j'en parlerai, donc je ne veux pas lancer tout de suite ce débat dans le détail. Mais dans votre réponse à la question précédente, vous avez souhaité vous détacher, bien sûr, de ces deux considérations culturelles. Mais ce qui me frappe, c'est que, en matière de confiance, le fait de se centrer très fortement sur une figure libérale de l'individu responsable, qui est une option que je soutiens, je suis pour cette grammaire politique, mais le fait de se centrer exclusivement sur cette grammaire à travers tout de même des catégories de pensée qui en dépendent fortement, me semble tronquer la question de la confiance. Autrement dit, par exemple, quand vous parlez du consentement mutuel, il est clair que vous l'avez dit vous-même, c'était un refroidissement désenchanté, mais en tout cas, il est clair que ce consentement mutuel est une figure très importante, je pense, pour nous, dans la relation au médecin, mais extrêmement partielle par rapport à ce qui se joue dans cette scène. Donc, vous voyez, ce que je voulais simplement faire remarquer, c'est que c'est pas seulement une posture de philosophie générale qui est ici en discussion. Ouais. Ce sont aussi des catégories, y compris de pragmatique, puisque l'autonomie du sujet dans son action, c'est une formule aussi pragmatique. Le fait de se centrer là-dessus, qui me semble de bonne guerre, je répète, mais le fait de s'y centrer très exclusivement produit des biais d'analyse qui ne sont pas seulement des biais culturels.
Ben, vous posez plusieurs questions et je vous en remercie beaucoup parce que ça me permet de préciser certaines positions, disons, plus générales. Par exemple, sur la question du consentement éclairé, j'espère que ça soit clair que je dis justement, c'est la tension morale, et la tension non seulement morale mais sociale est là. Enfin, il y a ces formulaires que vous signez en disant que on vous dit tout sur sur l'acte médical et qui sont vécus par les patients, par exemple, comme une déresponsabilisation, comme l'opposé, disons, comme le fait que le médecin ne veut pas prendre ses responsabilités dans la te fait signer, donc tu sais tout et c'est toi la personne responsable. Et ça crée un vrai débat et une vraie, disons, tension normative, enfin. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on veut réintroduire une dimension de confiance, disons, chaude, disons, je l'appelle comme ça, je veux dire, chaude, ça veut dire basée sur une espèce de phénoménologie du rapport personnel avec l'autre qui nous intéresse, que nous voulons quand même garder. Faisons attention à ne pas se ramener avec ça tout un paradigme paternaliste, fondamentalement, de confiance dans la personne qu'on ne veut pas. Moi, je pense, par exemple, dans le travail que j'ai fait sur l'entretien médical, ce que les gens demandaient, c'était plutôt, non pas de revenir sur le modèle paternaliste, le docteur sait, et donc vous lui faites confiance parce qu'il est sympathique, gentil, ou le docteur de famille, etc. Mais ils voulaient créer une espèce de situation de respect dans la conversation. Par exemple, avoir un entretien où on pouvait être traité comme un sujet, par exemple, avec le même type justement d'autonomie intellectuelle que le sujet un père. Et c'est pour ça que j'ai dit très souvent, lorsqu'on demande on parle d'atteinte normative créée par la relation de confiance, on parle, je pense, d'atteinte d'une certaine qualité de la relation, disons, du contexte de communication, enfin, de la relation interpersonnelle, enfin, les qualités qui peuvent être... je pense que ça rejoint aussi des idées que lui Curé a développées dans d'autres travaux sur, disons, la... moi j'insiste plutôt sur l'aspect conversationnel linguistique, lui il insiste plutôt sur l'aspect interaction, enfin vraiment interaction goffmanienne, la complexité de cette interaction qu'on veut garder et dans laquelle on se distingue comme être humain, etc. C'est pour ça que j'insiste sur la question de la dimension culturelle et sociale de la relation de confiance. Ben ça c'est évident, enfin, même le problème a été, tout le débat sur la confiance a été relancé par les travaux de Stomka, des gens qui venaient des pays de l'Est où justement enfin, les rapports avec la confiance avaient été complètement différents par rapport à celui qu'on avait vécu en Occident. Donc je ne nie pas cette dimension, c'est pas mon métier, je ne suis pas sociologue et j'essaye d'ailleurs d'intéresser aussi aux travaux empiriques, mais je pense que ça fait partie d'un des travaux d'analyse conceptuelle, d'essayer de saisir certains types de mécanismes qu'on peut appliquer dans différentes, indépendamment, disons, des contextes culturels.
Oui, mais c'est peut-être une question que je peux poser aussi à M. Livet. En fait, vous avez dit donc que la modernité était censée nous libérer de cette confiance chaude. Alors ça, c'est une question que je me pose. Je me dis que le renouveau, par exemple, des communautés religieuses, des mouvements charismatiques, etc., qui donne justement énormément d'importance à cette confiance chaude. Est-ce que c'est un recul de la modernité
Non, non, pas du tout, mais il se peut que, par exemple, c'est une bonne piste d'analyse plutôt empirique, voir si justement l'espèce de demande qu'on ressent aussi d'avoir des relations de confiance qui sont plus riches du point de vue, etc., qui n'est plus satisfaite dans des sociétés de l'accountability, enfin, où tout ce qu'on demande aux autres, c'est d'être capable de rendre compte, c'est pour ça qu'on se fie à... sont satisfaites par d'autres sphères. Enfin, ça, justement, je renvoie la question aux sociologues. Enfin, je pense que c'est une très bonne question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui. Juste un point, vous l'avez affiché de nouveau là. Je pense à la thèse de O'Neill. Parce que quand vous évoquez la contrainte d'accountability, justement, donc, qui pèse sur les institutions. En fait, ce que manque au NIL, c'est qu'elle peut engendrer aussi bien la confiance que la défiance.
Exactement.
Exactement. Donc, en fait, le développement d'un certain type d'accountability, oui. en fait, génère une société de méfiance.
Exactement. Exactement.
Oui, monsieur Lévesque. C'est
sur ton dernier
diapo, là.
Oui, là, c'est un peu vite.
Je n'ai pas totalement... j'aimerais des précisions, parce que effectivement, adopter une posture de confiance, ça permet par exemple de partager les émotions. On sait que les gens partagent verbalement leurs émotions avec des gens, avec préférentiellement avec des gens avec qui on peut penser qu'ils ont confiance. En revanche, révéler des valeurs partagées, en quel sens? Très bien, il me semble qu'on ne va pas tellement avoir à révéler des valeurs partagées avec des gens à qui on a confiance, justement.
Prends les cas. Pour moi, les cas typiques, enfin, des postures de confiance, c'est la conversation avec le chauffeur de taxi. On continue à dire oui jusqu'à, disons, on crée, disons, on révèle toute une série d'émotions partagées ou des valeurs partagées. Et même si on ne les croit pas, même si on ne partage pas le même, on continue avec la posture parce que c'est indispensable à créer cette espèce de background commun, et c'est sur ça, et on s'attend tous les deux à respecter, disons, un certain jeu, de engendrer, disons, cette espèce de background commun. Mais à un certain moment, s'il peut y avoir, disons, une déclaration, par exemple, politique, et là, on se pose la question. Non, là, je ne peux pas, je dois dire vraiment ce que je pense, par exemple. Ou bien, on peut faire des calculs rationnels du type, j'ai encore 5 secondes et puis j'arrive à l'adresse où je vais, donc je peux quand même continuer avec la posture de confiance parce que de toute façon, je ne reviendrai plus. Mais, enfin, le type de posture, la phénoménologie de la posture de confiance que j'ai décrit, c'est dans ces cas-là. Enfin, la possibilité, l'acte de parole même, enfin, engendre cette espèce de comportement qui est sous posture de confiance, mais qui est une confiance qui est assez virtuelle. Enfin, c'est, on n'est pas engagé, donc on ne doit pas s'attendre. Je pense que les attentes normatives sont beaucoup plus faibles.
Oui,
et là, ça explique aussi pourquoi on a cette facilité de confiance sur l'Internet, par exemple, dans des cas où la confiance, parce que justement, c'est sous une posture qui est très fragile. Enfin, là, je peux m'en vanter, partager plein de choses en commun, puis à un certain moment, ça peut se casser ou ça peut devenir, disons, aller au-delà. Mais, disons, c'est un peu ce type de.
C'est le passage du froid au chaud, parce que c'est froid en fait avec le taxi.
Mais quand même, on est engagé et on a une vulnérabilité cognitive. Toutes les conneries qu'on a dit, enfin, elles sont présentes dans l'environnement mental, enfin, donc on peut être. On accepte une certaine vulnérabilité cognitive à s'engager avec les mots des autres.
Mais qu'est-ce que vous appelez s'engager, par exemple, dans le cadre de conversations avec
vous? Vous acceptez de lui parler. Je vous avais mis une photo fameuse à la fin, je ne voulais pas trop la commenter parce que ça devient un discours encore plus long. Là, c'était la première étudiante noire admise dans une université américaine. Et c'est une photo très très célèbre. Et la personne derrière qui lui hurle, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se refuse de parler. Enfin, donc là, enfin, bien sûr, il y a des contextes de communication où en fait elle doit subir. Mais disons, elle accepte pas. Là, disons, là on n'est pas dans un contexte où, bien sûr, elle entend. Donc, disons, mais lorsque vous pensez qu'un propos, par exemple, c'est hors votre possibilité de faire confiance à l'autre, tout simplement, vous ne lui parlez pas. J'arrive très difficilement à imaginer un contexte où vous pouvez garder une posture de méfiance absolue en disant l'autre est en train de dire les faux, de dire quelque chose qui pour moi est inacceptable d'un point de vue moral, etc. Et quand même, donc il y a une espèce de posture qui est vérifiable, à vérifier après, point de vue enfin. Donc vous avez votre travail épistémique à faire, vous avez votre responsabilité épistémique sur ce que vous arrivez à croire à la fin, mais quand même. Je pense que c'est
assez. Conseils
voilà, exactement. Enfin, il y a énormément de contextes. On s'en fait, même ici, enfin, on s'en fait tous. Et puis, il y a quelqu'un qui dit bon, je ne crois pas un mot de tout ça, mais quand même, il est resté au jeu. Enfin,
voilà.